Donc, le but de cette table ronde, c'était de pouvoir aussi se poser la question, qu'est-ce qui s'est produit depuis 2008, c'est-à-dire depuis le dépôt du rapport Bouchard-Perrin? Est-ce que la situation au Québec ici a véritablement changé depuis 2 ans? Je pense que ça, on a déjà commencé à y répondre depuis ce matin. Enfin, on remarque déjà que d'un débat sur les accommodements raisonnables, nous sommes passés beaucoup sur un débat sur la laïcité et tout ça aboutit en quelque sorte avec la loi 94 qui est l'objet de ce colloque. J'ai quelques façons de procéder pour cette table ronde. Donc, j'ai 4 intervenants ici. Je vais leur accorder la parole en priorité, bien sûr. On va avancer par thème. Et pour chacun, après chaque thème, je vais permettre 2 ou peut-être 3 questions, mais pas plus, pour ne pas relancer un débat trop long. Et nous réserverons les 30 dernières minutes pour des questions plus larges du public. Donc, on présentera les thèmes. Et si vous avez quelques questions avant de terminer le thème, portant sur le thème, bien sûr, et je serai très sévère à cet effet, vous pourrez, bien sûr, vous rendre au micro et poser la question ici aux 4 participants. Parmi les thèmes qu'on va discuter aujourd'hui, premièrement, un thème assez peut-être général, mais je pense qu'il est nécessaire ici, c'est de faire un peu l'état des lieux. 2 ans après le rapport Bouchard-Taylor, où en sommes-nous? Donc, ce sera une question assez générale, mais que je vais lancer ici aux 4 participants. Bien entendu, il faudra revenir sur la question de la loi 94, qui est l'objet de ce colloque, donc au deuxième thème. Le débat sur la laïcité, hein, lorsqu'on en a parlé ce matin de la présence des 2 manifestes au Québec sur la laïcité, avec une opposition ici, avec une tendance peut-être plus républicaine versus une tendance plus libérale. Donc, que penser de ce débat sur la laïcité comme 3e thème? Autre question qui m'apparaît très importante aussi, c'est cette distinction entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Il y a eu beaucoup de débats après le rapport Bouchard-Taylor pour savoir est-ce qu'il y a toujours une distinction ici à faire sur la question de l'interculturalisme au Québec versus le multiculturalisme qui, lui, serait canadien. Et on pourra terminer ici sur la question des droits individuels, droits collectifs et la hiérarchisation des droits entre les droits à la liberté religieuse, entre autres, et la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, vous voyez, le menu est très large et assez important. Donc, c'est pour ça que je ne serai pas de parler trop longtemps. Je m'excuse d'emblée tout de suite ici pour tous ceux que je vais interrompre dans le cadre de ces deux de ce débat que nous avons devant nous. Donc, on pourra régler nos comptes après en dehors de la salle ici. Donc, je commence tout de suite à présenter les personnes qui m'entourent. Tout d'abord, à ma droite, Louis-Philippe Lampron, qui est professeur de droit à l'Université Laval, qui est un spécialiste de la question des droits fondamentaux, entre autres au Canada, et qui touche, ses travaux touchent les questions des enjeux liés à la consécration des convictions religieuses en tant qu'objet de protection des lois sur les droits fondamentaux au Canada, donc qui aura l'occasion d'intervenir tout à l'heure. À côté de lui, on retrouve Raphaël Iacovino, qui lui est professeur de sciences politiques à l'Université Carleton, qui est un très bon connaisseur du Québec et des relations aussi entre le Québec et le Canada. Il a d'ailleurs co-auteur avec Alain Gagnon de l'ouvrage « De la nation à la multination, les rapports Québec-Canada » qui a été publié en 2007. Et on a mis ici, on a fait exprès d'ailleurs pour ça, placer nos 2 collègues de l'Université de Montréal ensemble, soit Michel Seymour, qui est à ma gauche ici, et Daniel Benstock. Bon, tous les 2 professeurs titulaires de philosophie à l'Université de Montréal, donc on peut se passer de présentation. Michel, qui a publié l'année dernière « De la tolérance à la reconnaissance », c'était en 2008, ouvrage très important qui pose justement des enjeux que on pourra voir tout à l'heure lorsqu'on posera la question des droits individuels et des droits collectifs. Et Daniel Benstock, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique et directeur fondateur du centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Donc voilà, courte présentation, on ne peut pas prendre trop de temps sur cette question. Je n'ai pas d'ordre ici qui va intervenir en premier, donc je vais jeter des grands regards et y aller un peu au hasard. En commençant par ce premier thème ici, que penser et que faire, que penser de ces 2 ans qui se sont écoulés depuis le dépôt du rapport Bouchard-Taylor Est-ce que la situation québécoise a véritablement changé? Certes, oui, si on lit les médias, parce qu'il n'y a que le mot « construction » présentement qui semble avoir de l'importance. Mais en fait, je pense qu'on peut poser la question ici. Avons-nous, après ce rapport, réglé, enfin, je le lance comme ça, bien que je sais la réponse, réglé la question de la diversité au Québec? Donc, je ne sais pas qui veut répondre en premier, qui veut se lancer. Voilà, oui, vas-y.
Oui, ok, très bien. Bonjour. Le micro, c'est mieux. Alors, l'avantage d'être un juriste, c'est que je peux me cacher derrière le droit. Alors, je vais pouvoir... c'est ce que je vais faire d'emblée. Juridiquement, donc, est-ce qu'il y a du mouvement par rapport, justement, à la question de la gestion de la diversité culturelle et religieuse au Canada après Bouchard-Taylor? Est-ce que Bouchard-Taylor, la crise, entre guillemets, des accommodements, a eu un impact? Je vous dirais que c'est quand même un peu difficile d'identifier parce qu'on sent un potentiel virage jurisprudentiel, mais en même temps, c'est peut-être également un, ce qu'on appelle en bon québécois un chaud de boucan de la part de la Cour suprême. Alors, c'est un peu difficile de faire la distinction, mais quand même, on peut... je fais référence à l'arrêt des utérites qui a été rendu en 2009 par la Cour suprême du Canada, les motifs pour lesquels la Cour suprême a rendu cette décision-là sont assez surprenants et, bon, à mon avis, il y a quand même une espèce de cassure avec la jurisprudence antérieure de la Cour suprême du Canada. Maintenant, reste à voir si c'est le début d'un virage jurisprudentiel ou au contraire, si c'est simplement un désir de montrer à la population que la crise, encore une fois, entre guillemets, des accommodements a été prise en considération par les magistrats. Alors, rapide rappel des faits. C'est une petite communauté religieuse albertaine qui refusait de se faire prendre en photo en raison de leur conviction religieuse, de se faire prendre en photo volontairement. Et jusqu'à 2003, l'Alberta avait accepté un accommodement qui leur permettait d'obtenir un permis de conduire sans photo. Mais après 2003, la situation a changé. Le gouvernement albertain a refusé au nom de la sécurité du public contre la fraude, des risques de fraude d'identité, etc., etc. Alors, ils ont contesté, en vertu de leur liberté de religion, ce nouveau refus, donc l'obligation de se faire prendre en photo pour avoir un permis de conduire. Alors, la Cour suprême, bon, n'a pas changé structurellement parlant là, les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer si oui ou non il y a une conviction religieuse protégée au sens de la Charte canadienne. Mais là où le raisonnement, on a l'impression qu'il y a vraiment un changement où on essaie d'imposer des freins à l'octroi d'accommodement, ben à deux niveaux, en fait. D'une part, les motifs pour lesquels la Cour suprême qui a jugé que c'était justifié de refuser à cette communauté religieuse-là la possibilité d'avoir un accommodement, c'est fondé sur des motifs qui sont vraiment surprenants. On pourra en revenir aux motifs au moment de la discussion, là, mais grosso modo, le motif principal que la Cour suprême est venue invoquer, c'était, et là je ne veux pas trop parler, alors je fais ça très rapidement, de dire, bien, écoutez, vous n'avez pas démontré que vous subissiez un autre préjudice que celui de devoir payer pour aller vous faire amener en ville pour faire vos courses, en fait. Alors, c'est vraiment le cœur de la décision dans la justification, et on juge que le refus d'accommodement de cette communauté-là, qui sont au nombre de 200, au motif de la sécurité du public albertain contre la fraude d'identité, malgré la demande qui avait été faite par cette communauté-là d'avoir des permis de conduire où il était inscrit non valide comme pièce d'identité, on devait refuser cet accommodement-là. Donc ça, c'est assez surprenant, et c'est une décision qui a été divisée, et la majorité est très radicalement opposée à la dissidence. Il y a également un avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur la régie d'assurance maladie, où on a senti également un effort de réinterpréter une balise qui jusque-là avait été interprétée de manière assez minimale, c'est-à-dire celle de l'atteinte plus que négligeable ou insignifiante. On a jugé donc que le fait de demander à une femme musulmane dont les convictions religieuses exigeaient qu'elle se voile en toutes circonstances, de retirer son voile devant un commis de sexe masculin, devait être considéré comme une atteinte négligeable ou insignifiante à ses convictions religieuses parce que ce dévoilement, guillemets, ne devait durer que quelques secondes. Alors ça, c'est les deux affaires que j'ai en tête qui pourraient témoigner d'un certain virage jurisprudentiel post-Bouchard-Taylor, en fait. Alors, il reste à voir maintenant si ce virage va se concrétiser ou au contraire, c'est... je reprends pas mon expression québécoise, mais au contraire, il s'agit d'un leurre, finalement.
Merci. Peut-être à ma droite.
Oui, d'accord. Alors, je
gauche.
Un désavantage, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des questions qui étaient distribuées aux participants, tous sauf moi. Donc, je ne suis pas paranoïaque, mais bon. Je vais répondre à la question telle qu'elle est posée. Est-ce que nous avons... en fait, comment elle est-elle posée? Puisque... Où en sommes-nous? Ben, je pense que sur certaines choses, la situation s'est améliorée. En tant que philosophe, on aime bien avoir des questions claires. À défaut d'avoir des réponses claires, on aime bien avoir des questions claires. Et je pense qu'une partie du débat s'est quand même clarifiée depuis Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor, bon, c'est un processus auquel j'ai participé en tant que conseiller. Le rapport lui-même, il faut bien le reconnaître, était une sorte de fourre-tout avec beaucoup de questions, toutes les questions qu'on aurait pu imaginer de vouloir traiter autour de la question de la diversité au Québec étaient traitées. Et, bon, il n'était pas clair. Je pense que le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités en donnant un suivi au rapport comme il aurait dû le faire. J'ai participé à d'autres processus, par exemple le rapport Proulx à la fin des années 90, où le gouvernement avait traité de manière très différente le rapport que nous avions produit, c'est-à-dire qu'il en avait fait l'objet d'une consultation de débat au Parlement. Il y avait une sorte de processus qui avait été prévu par le gouvernement pour que notre rapport ne tombe pas, en quelque sorte, dans le plus profond tiroir du plus profond bureau du sous-sol du bunker. Et là, il n'y a pas vraiment eu de processus. L'été est arrivé, c'était au mois de mai, et je pense que le gouvernement était bien content de pouvoir voir les Québécois et les Québécoises partir en vacances et oublier un peu ce rapport, qui posait quand même des questions importantes. À la rentrée, je pense que tout le monde l'avait un peu soigneusement oublié, disons. Cela dit, il était difficile exactement de voir comment faire le suivi du rapport Taylor, tellement il était foisonnant de questions liées, bon, à l'identité québécoise, à la laïcité, etc. Et je pense que les deux dernières années ont eu l'avantage de préciser un certain nombre de questions sur lesquelles les Québécois et les Québécoises sont profondément divisés. Et je ne pense pas que nous avons fait quoi que ce soit pour faire de sorte que cette division s'atténue, mais encore une fois, identifier les questions, c'est déjà un bon pas.